Monseigneur, chers amis, frères et sœurs, et puis vous qui venez peut-être pour la première fois à cette rencontre, je voulais vous dire mes remerciements, voilà, de votre présence ici. Je suis très heureux de me retrouver à Belfort. C'est une ville que je ne connais pas beaucoup, mais j'ai un souvenir du synode de Belfort que j'ai modéré il y a quelques années. J'en ai gardé évidemment un souvenir très ému, parce que c'était l'occasion pour les luthériens et les réformés de conjuguer leur destin dans ce pays, après tant de siècles de séparation, puis de cohabitation armée, puis de cohabitation fraternelle, et puis finalement d'amitié. Et donc voilà, l'histoire de l'Église s'est arrêtée quelques instants dans cette ville, pour ce qui concerne les protestants, et j'en suis très heureux. Le deuxième point, comme on vient de le dire, c'est de vous dire en quelques mots qui je suis pour comprendre pourquoi je parle de ce que je vais vous parler maintenant. Après un parcours ministériel dans l'Église réformée au Gabon et au Maroc, où j'ai pu avoir la chance de rencontrer des partenaires catholiques, juifs et musulmans. J'ai donc été très tôt amené à réfléchir à la question de l'interreligieux et à la question dont je vous entretiendrai tout à l'heure du rapport entre les religions et les autorités publiques. Sachant que la question du dialogue interreligieux est une question ancienne, j'y reviendrai tout à l'heure, et qu'en même temps, elle en est encore à ses balbutiements. C'est-à-dire que c'est un vieux bébé, pourrait-on dire. Le dialogue religieux n'a pas encore grandi. Il est vieux, mais il n'a pas encore porté tous ses fruits. Et je pense que ce soir, voilà, tel que vous êtes à la fois héritier de tout ce qui a été fait par nos anciens il y a à peu près une centaine d'années, puisque en France, en Europe, l'interreligieux a eu à peu près un siècle. Et vous êtes en même temps appelé à être pionnier, comme ce soir, c'est-à-dire de reprendre à votre tour des questions pour les porter un peu plus loin et pour que d'autres que vous-même les portent dans cette société. Après avoir été pasteur de paroisse, j'ai eu l'occasion de m'intéresser au dialogue judéo-chrétien de manière plus précise, et puis de proche en proche, le pasteur d'Hauteville n'y est pas pour rien, de travailler aussi à la Fédération protestante de France. Et j'ai été président donc de cette Fédération protestante de France de 2013 à 2022. Cette petite histoire pour vous dire qu'un ministère pastoral est à la fois enraciné dans un vécu de paroisse et en même temps informé et parfois même déformé ou transformé, reformaté par toutes ces rencontres interreligieuses qui sont finalement le quotidien de la vie d'un responsable d'église en France. Et parmi les sujets, j'allais dire, un peu verticaux, un peu solides comme ça, qui marquent cet engagement interreligieux, il y a évidemment tout le suivi concernant le DU, puisque je sais qu'ici il y a des auditeurs du diplôme universitaire concernant la formation interreligieuse. Et puis il y a la formation Emouna, que vous avez peut-être entendu, qui est une formation arrimé à Sciences Po Paris et qui prolonge au fond le travail que fait le DU dans différents lieux de ce pays, auprès non pas seulement d'ailleurs de prêtres, de rabbins, de pasteurs ou d'imams, mais auprès de leaders d'opinion, de personnes, que, j'allais dire, comme vous et moi, qui ont un intérêt à la question de l'interreligieux et qui veulent poursuivre cela à partir d'une formation qualifiante, celle de Sciences Po. Les cultes sont officiellement engagés dans cette formation de Sciences Po Emouna, hein, c'est donc la conférence des évêques, c'est c'est le consistoire central, c'est la Fédération protestante de France, c'est l'Union bouddhiste de France, et puis l'Assemblée des évêques orthodoxes. Et puis du côté musulman, alors c'était le Conseil français du culte musulman, mais qui est en ce moment en train de passer le relais au FORIF, donc le forum de l'islam de France. Ces formations à l'interreligieux sont une réponse, une tentative de réponse au malaise que connaît la société française et à cette attitude, au fond, d'hésitation, pour ne pas dire de déni, devant le fait que le religieux fait sens, même si l'on veut le garder à distance, même si l'on sait que le religieux est inflammable, un produit hautement inflammable, il y a toutefois une nécessité pour la société de prendre ce sujet à bras le corps. Alors là, il s'agit des adultes, hein, le DU c'est pour les adultes, mais le projet évidemment, et c'est ce qu'avait proposé Régis Debray il y a très longtemps, c'est que ce sujet soit abordé aussi par les plus jeunes, et à l'école, et que l'éducation nationale elle-même assume cette confrontation aux faits religieux qui nourrit, comme des sources peuvent nourrir une terre, secrètement, la société française. Voilà, pour dire au fond mon intérêt à ces sujets, qui est donc un intérêt assez ancien, et que j'ai pu porter alors de façon parfois maladroite, parfois de façon un peu volontariste, parfois de façon convaincue, je l'espère encore aujourd'hui, devant des interlocuteurs eux-mêmes un peu maladroits, ou eux-mêmes très convaincus, et puis eux-mêmes aussi voilà, dans cette hésitation à aborder un sujet compliqué, un sujet difficile. Comme disait le professeur Olivier Abel, professeur de philosophie, qui a été doyen de l'Institut protestant de théologie, la religion est une machine à ralentir. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image. Dans une société où tout s'accélère, où il faut aller vite, où l'on est, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, requis pour prendre position, pour être pour ou contre, sur n'importe quel sujet, la religion, au fond, nous renvoie à nous-mêmes et à ce processus de réflexion, de retour sur soi, qui demande du temps, qui demande de la lecture, qui demande un effort intellectuel, qui demande un effort d'intelligence. Ce mot d'intelligence, j'y tiens parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intelligent, c'est-à-dire que vous savez exactement lire entre les lignes, puisque c'est ce que cela signifie. Et donc la religion est une façon de reprendre les sujets importants, mais avec le temps qu'il faut pour que la réponse soit sage, apaisée, et puis surtout pertinente, peut-être même impertinente. Ce que je voulais dire donc avec cette brève introduction, c'est que je vais vous parler de la religion, j'essaierai d'en donner quelques définitions au passage, et je vais vous parler aussi du culte, j'en donnerai aussi une définition au passage, telle que je l'ai trouvée dans le livre de l'Exode, et puis je vais vous parler enfin de cette évolution dans laquelle nous sommes depuis de longues années, en Europe, en Occident, on va dire, une évolution râpeuse qu'on appelle la sécularisation et qui touche tous les cultes, qui touche évidemment le protestantisme, qui est lui-même d'ailleurs un des provocateurs de cette sécularisation, mais qui touche aussi l'Église catholique, qui touche évidemment le judaïsme, et puis qui touche aussi l'islam, avec toutes les conséquences heureuses et malheureuses qui s'en suivent. J'aimerais pour commencer poser mon propos à partir du contexte, c'est-à-dire de la situation qui est la nôtre. Et pour ce faire, je propose quatre points de contexte. Le premier, c'est celui que j'évoquais mezzo voce à l'instant et qui concerne la polarisation des positions et des doctrines. Quand je disais tout à l'heure que le religieux est un produit hautement inflammable, C'est de cela que je veux parler. Le contexte est celui d'une polarisation des positions et des doctrines en religion. Nous pourrions faire d'ailleurs le même constat pour ce qui concerne le politique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, où le dialogue est devenu quasi violent, y compris au sein des familles, non pas des familles politiques, mais des familles, hein, où le débat politique est devenu aussi un enjeu d'agression. La polarisation des positions et des doctrines au plan religieux se traduit par l'apparition, assez récente malgré tout, d'extrémisme. Là, on va parler de l'extrémisme musulman, qui a donc un projet politique et non plus seulement religieux. On va parler du traditionnalisme en terre catholique, c'est-à-dire la remise en cause du fonctionnement et des évolutions du catholicisme et une volonté de réaction, de freinage des évolutions du catholicisme. Et puis, pour ce qui concerne le judaïsme et le protestantisme, le fondamentalisme. Donc, au fond, on a une espèce de polarisation des positions et des doctrines autour de l'extrémisme, du traditionalisme et des fondamentalismes, qui n'aident pas, enfin, qui ne sont pas des facteurs, vous l'avez compris, aidants dans la réflexion et dans l'action concernant la prise en compte du fait religieux. Le deuxième point de contexte, c'est, et là je ne fais que reprendre ce que l'actualité malheureusement nous donne à comprendre, c'est la révélation des défauts systémiques des religions. Et je pense en particulier évidemment à l'Église catholique, puisque c'est elle qui aujourd'hui est dans cette actualité-là, la révélation des défauts systémiques avec les affaires de pédophilie, de crimes, donc, de violence, de harcèlement, donc de mise en cause, au fond, de l'institution religieuse par des actes condamnables et qu'il faut condamner. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais vous avez tous en tête donc ces informations et qui concernent aussi les autres cultes. C'est pour ça que je parle des révélations des défauts systémiques des religions, parce que cette affaire ou ces affaires concernent évidemment aussi l'islam, le judaïsme, le protestantisme et le bouddhisme. Le troisième point de contexte, c'est l'instrumentalisation du religieux par le politique. Et j'aimerais ici là, faire donc quelques références. Hein, c'est l'instrumentalisation, par exemple, de l'orthodoxie par le pouvoir russe en ce moment même. C'est l'instrumentalisation d'un certain judaïsme par des pouvoirs successifs en Israël, de la même façon que c'est l'instrumentalisation des évangéliques par des pouvoirs ou des discours politiques au Brésil ou ailleurs, ou aux États-Unis, comme vous voulez. Sans parler donc de l'instrumentalisation de l'islam par des responsables politiques ou militaires qui font de cette religion autre chose que ce qu'elle est. Et puis le quatrième point de contexte, c'est ce à quoi on assiste et ce sur quoi j'avais commencé dans la conversation présentant cette soirée, et ce que j'appelle donc l'exculturation du culte, l'exculturation du religieux, de la société, la sortie de la religion du fait social. Le petit exemple que vous venez de donner sur la librairie, enfin la bibliothèque, et voilà, est un indice. Hein, tout d'un coup, quelque chose apparaît qui signifie que le religieux est sorti du culturel. Hein, le culte sort de la culture. Et je reviendrai sur ce sujet lorsque je vous parlerai de ce qu'est exactement le culte dans la définition que j'aimerais en donner. Et donc cette exculturation du culte arrive en fin de processus, si vous voulez, un processus qui a d'abord été celui de la collusion entre le religieux et le politique, on va dire, les anciens régimes, tout ce qui se vivait en Europe avant les révolutions, hein, jusqu'au moment des séparations, donc les régimes concordataires ou les régimes des pays où la religion est religion nationale ou religion établie, comme en Angleterre, vers des systèmes peu propices à la diversité confessionnelle. Hein, c'est la Norvège, tout le monde est luthérien, la Grèce, tout le monde est orthodoxe, l'Angleterre, c'est l'Église établie, c'est l'Église d'Angleterre, et puis en France, jusque 1905, voilà, la religion de tous les Français, c'est le catholicisme. Alors évidemment, il y a les guerres civiles qui ont alerté tous les responsables, tous les politiques, tous les princes, les seigneurs en Europe, hein, les guerres civiles qui ont déchiré l'Europe. Je les appelle civiles parce que les historiens de l'époque les appelaient ainsi. Hein, les guerres civiles qui ont déchiré l'Europe et qu'on a ensuite qualifié de guerre des religions. Mais c'est véritablement des guerres civiles qui ont permis la création, et là aussi j'y reviendrai si on a le temps, d'un espace dans la société qui ne soit plus un espace saturé par le politique, mais où le religieux puisse avoir sa place. Et ce régime de collusion a fait place à un régime de séparation. Alors, la plupart des pays d'Europe maintenant, et aux États-Unis aussi, connaissent ce régime de séparation avec des degrés plus ou moins importants dans la façon de vivre la séparation. Je pense à l'Allemagne, par exemple, hein, l'Allemagne qui a un régime de séparation, selon la loi fondamentale, mais avec un système de redistribution fiscale qui permet aux églises d'avoir leur mot à dire et une certaine autonomie de financement. Au fond, ce système fiscal qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale a été donc engagé comme une forme de réparation. Hein, c'est d'ailleurs le terme. Hein, on répare le mal, le tort qui a été causé aux églises en leur permettant, après le désastre de cette Deuxième Guerre mondiale, d'avoir de nouveau un rôle important dans la société. Et donc, elle gère des établissements sanitaires et médico-sociaux, des maisons de retraite, des jardins d'enfants, des écoles, etc. Parce que la société a compris que les églises, donc que la religion avait un rôle important et positif à jouer après l'horreur nazie qui justement voulait s'émanciper des religions et exculturer le culte. Ces régimes de séparation donc se sont installés à peu près partout. Alors il reste encore, comme je le disais, la Grèce et je ne sais plus quel autre pays, enfin même en Norvège et en Suède, les choses bougent, la sécularisation fait son travail. Et puis, ce contexte de séparation arrive maintenant à, si vous voulez, vers un troisième modèle. Après celui de la collusion, après celui de la séparation, il y a donc celui de l'exculturation. L'exfiltration, vous savez, comme quand on exfiltre un espion d'une mauvaise passe, quoi. Là, c'est la religion qui est donc priée de bien vouloir quitter la pièce. Voilà les quatre points de contexte que je voulais donner en introduction. Ça va jusque-là? Alors, sourions un peu parce que ce contexte est lourd, j'allais dire, peu amène, enfin, avec un jeu de mots volontaire, là, peu amène, hein, mais malgré tout, c'est ce que nous vivons. Et on ne peut pas s'émanciper de cette réalité contextuelle dans laquelle nous sommes les uns et les autres. Je pense que, et je me mets dans la phrase, chacun ici en a pris pour son grade. Voilà. Hein, y compris les moins gradés. C'est-à-dire que on parle de cardinal, on parle d'évêque, on parle de prêtre, mais on parle de nous, en vérité. Et c'est d'ailleurs un des points que je voulais souligner, qu'un journaliste des DNA a relevé dans l'interview que j'avais faite. Les religions elles-mêmes ont contribué à leur propre exculturation. Il ne faut pas simplement dire que c'est l'autre qui a tort. Nous sommes tous embarqués, si vous voulez, dans un même processus où les choses nous emportent, nous aussi, nous sommes au fond emportés dans cet immense mouvement de fond qui s'appelle la sécularisation et qui nous amène dans un monde d'après la modernité. Vous savez que la modernité, c'est ce temps, on va dire, entre la Renaissance et les Lumières, hein, ce temps où tout va vers le mieux. Hein, vous savez, on va vers le progrès, on progresse, on va vers un mieux. Hein, et là, on arrive dans un temps d'après-modernité où on s'interroge, est-ce que vraiment on va vers le mieux? Et l'une des deux questions que je me pose et que j'aimerais vous poser ce soir, c'est celle-ci, sur un plan tout à fait profane, tout à fait, social. C'est, au vu de ce contexte, qu'y a-t-il après la démocratie? Si jamais plus personne ne vote, ou si même dans la plus grande démocratie du monde, un président attaque son propre lieu de représentation nationale, c'est l'affaire du Capitole. Qu'y a-t-il après la démocratie si les démocrates eux-mêmes ne jouent plus le jeu, si nous ne jouons plus ce jeu-là? Alors la question, elle est pas théorique, c'est quel modèle de vivre ensemble inventer après la démocratie? Je vous laisse donc tranquillement réfléchir à ça. Et la deuxième question, puisque c'est celle que j'introduis avec mes quatre points de contexte, c'est qu'y a-t-il après Dieu, c'était le titre aussi de mon livre, si précisément la société se propose d'exculturer le culte, hein, mais comment vivre dans une société d'après Dieu? Non pas d'après Dieu selon Dieu, mais dans un monde où Dieu serait lui-même prié de revenir dans le ciel d'où il était descendu, soit par un texte, une révélation, un personnage, peu importe, mais enfin voilà, on le renvoie à ses origines. Voilà les deux questions, donc, je vais dire, qui planent comme ça. Alors on les prend là aussi avec le sourire, hein, on les prend avec un peu de recul, puisque nous sommes dans une réflexion d'ordre religieux. C'est à la fois de la théologie, de la philosophie, de la sociologie. Vous voyez, on est un peu à la charnière de toutes ces réflexions. Ce que je vous dis là, je peux vous le dire en termes théologiques, physiquement purs, mais c'est incompréhensible. Je peux vous le dire en termes sociologiques et chimiquement purs, là aussi. Et c'est vraiment très aride et un peu effrayant. Et je peux vous le dire en termes philosophiques. Là, j'aurai un peu plus de mal, mais j'y arriverai. Mais là, de même, je risquerai d'être incompris. Donc je mélange à dessein ces différents registres de réflexion pour avoir une conversation, non pas académique, parce que ça n'est pas le lieu ici, mais voilà, une conversation compréhensible par tous. Et que chacun puisse justement, après, y entrer par les questions que vous... qu'il voudra poser. On y va, c'est parti, parce que là, c'était que le hors d'œuvre. Hein. La question de savoir si la religion a un sens, au double sens du mot sens, alors déjà, vous voyez, je complexifie la chose. C'est ce qu'on apprend dans la faculté de théologie, vous savez. Il faut problématiser. C'est-à-dire, vous avez un sujet, vous pensez qu'il est très simple, et on vous dit non. Et trouver le problème dans le sujet, c'est ça l'important. Hein. Vous connaissez la phrase entre deux pasteurs ou deux rabbins au moment du Covid, vous voyez, tout le monde est déstabilisé. En un mot, comment tu vas? Bien. Et en deux mots, pas bien. Voilà, c'est ça, problématiser, c'est ça. Hein, c'est arriver à trouver, dans une situation apparemment, apparemment partagée par tous et comprise par tous, quelque chose qui tout d'un coup devient presque incompréhensible. Il va falloir s'accrocher un petit peu. Et l'autre phrase, juste pour vous prendre un peu au début de la réflexion, l'autre phrase, c'est C'est ce sociologue qui n'avait pas fait exprès, je crois, de faire ce jeu de mots, parce qu'il était tellement beau comme un lapsus révélateur. Et il parlait justement de ce travail des églises, et notamment de l'église catholique, pour traverser cette épreuve de l'exculturation. Et il disait, l'avenir des clercs est sombre. Vous voyez ? Et évidemment, les clercs en question se sont sentis concernés, leur mine s'est assombrie immédiatement. Mais ce n'était pas du tout ce que voulait dire exactement le sociologue. C'était, au fond, si le problème dans la religion, c'est la cléricature ou l'excès du pouvoir du clerc, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les clercs. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce que signifie le clergé dans une religion. Donc la question de savoir si la religion a un sens, au double sens du mot, d'orientation, le premier mot de sens c'est le sens, la direction, l'orientation, et le sens comme signification. C'est deux choses différentes. D'ailleurs on le voit lorsqu'on a le permis de conduire, je ne sais pas si vous avez le permis de conduire, il y a le sens giratoire qui vous dit il faut tourner, ou bien le sens obligatoire, c'est par là et pas autrement. Et puis il y a le feu rouge, qui n'est pas une flèche, mais qui signifie qu'il faut s'arrêter. Alors c'est une convention, parce que celui qui ne sait pas que le rouge signifie qu'il faut s'arrêter, risque la mort, et risque de tuer. Donc vous voyez le sens comme direction, et le sens comme signification véritablement de ce qu'il faut comprendre. Alors, cette question de savoir si la religion a un sens préoccupe donc pratiquement tous nos contemporains, y compris ceux qui, précisément, s'éloignent de la religion ou la quittent ou la snobent en disant « je n'ai pas besoin d'elle », un peu comme au temps des Lumières, vous savez, où tous ces grands philosophes s'émancipaient à l'égard de la religion, mais qui au moment de la mort qui vient, appelez vite le prêtre ou le pasteur, ou le rabbin. Comme Voltaire, par exemple. Que certains d'entre nous encore imaginent athées, enfin, imaginent complètement émancipés de cette horreur qu'est la religion. Non, il appelle le prêtre au moment où la mort arrive. Alors la presse écrite, parlée, audiovisuelle, etc., s'est fait l'écho de tout cela. Et chacun tente de répondre avec ses moyens sur un débat dont les termes sont donc complexes. Et cet intérêt même au fait religieux, cet intérêt concernant la religion, est précisément le symptôme d'une nouvelle actualité de la religion. Vous voyez que je suis optimiste. La religion, on a beau essayer de la déculturer, l'exculturer, elle a quand même une nouvelle actualité. Et cette actualité, nous renvoie à notre projet de vie, à notre volonté de vivre ensemble, malgré tout, dans une société qui peut porter précisément des directions et des significations vitales pour un vivre ensemble, pour que nous restions les uns et les autres dans un contexte d'hospitalité et non pas d'hostilité. D'ailleurs, c'est deux mots qui ont la même racine. Quand l'hospitalité tourne mal, c'est l'hostilité qui l'emporte. Ce questionnement sur la religion, donc, va rester, vous l'aurez compris, plus de l'ordre du mystère que de l'énigme. Je ne vais pas ici résoudre la question. D'ailleurs, c'est la différence entre le mystère et l'énigme. L'énigme se résout. Enfin, quand vous avez la clé, hein, mais l'énigme, par définition, se résout. Le mystère s'approfondit. Et la religion est un peu de l'ordre du mystère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'approfondit parce que c'est quelque chose qui fait sens, et qui fait sens pour tout le monde, mais de façon plurielle. Et celles et ceux qui voudraient dénier cela se trompent. Celles et ceux qui, alors on les nomme les laïcistes, enfin les laïcars, enfin, ceux qui voudraient faire croire qu'on peut ne pas traiter la question du fait religieux, se trompent. ils ne connaissent pas l'humain. Ils s'embarquent dans des réflexions concernant l'humain qui le schématisent et n'en font qu'un être abstrait. Au fond, on pourrait dire que le religieux est ce qui constitue l'humain au même titre que le physique, le corporel et l'intellectuel. D'ailleurs, dans l'éducation de nos enfants, il nous est souvent imposé, à bon escient, de veiller au développement corporel, physique, on fait de la gym, au développement intellectuel, oui, il faut que l'enfant soit intelligent le plus possible, de toute façon les nôtres sont toujours les plus intelligents, c'est clair. Et on oublie, à coup sûr, qu'il y a aussi le développement spirituel, le développement religieux, le développement d'une intériorité ou d'une transcendance, et qui, évidemment, ouvre des horizons à nos vies. Alors, dire cela témoigne déjà d'une posture originale dans une époque où, justement, plus aucune certitude religieuse n'est légitimée. Je l'ai un petit peu évoqué dans le contexte. Plus aucune certitude religieuse n'est légitimée à s'imposer de fait ou de droit nulle part sur cette terre. Tout est remis en question. C'est un temps nouveau qui s'ouvre devant nous et qui est celui qu'on nomme du joli mot donc de post-modernité ou d'ultra-modernité, c'est-à-dire ce temps où nous entrons de plein pied dans l'incertitude, dans l'illégitimité, dans la remise en question permanente et où la religion n'est plus assignée à résidence pour toujours dans des affirmations de vérité ou de culpabilité, mais au contraire où sa place est sérieusement redéfinie. C'est ce que nomment les sociologues lorsqu'ils parlent de recomposition du religieux. Parce qu'eux aussi sont quand même intelligents, ils ne disent pas décomposition du religieux comme s'il allait disparaître, mais bien recomposition du religieux. Et donc dans ce temps passionnant d'indétermination et de recomposition du religieux qui s'inaugure, la religion a-t-elle encore un sens ? C'est ça la question. Et est-ce que nous allons le repérer ? Est-ce que nous allons être assez fins au moment où tout s'efface, où les institutions qui portent la religion sont mises en question ? Est-ce que nous allons repérer justement le sens et la signification du religieux ? Si même l'institution et ceux qui font l'institution ne sont plus légitimes, comment repérer que la religion a un sens ? C'est le grand questionnement d'ailleurs de chrétiens aujourd'hui, de catholiques en France, mais dans le monde, qui se disent si les porteurs du fait religieux sont mis en cause, qui va être l'interlocuteur sur ce sujet ? La postmodernité, donc puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est une époque d'échange et de découverte, c'est une opportunité au fond à saisir. Non pas le lieu d'une disparition ou d'une décadence. Quelqu'un m'avait interrogé là-dessus en disant « Mais vous êtes en train de décrire une décadence, enfin, ou la fin d'une histoire. » Non, c'est le début d'une nouvelle histoire à écrire, et que nous allons écrire. J'allais dire, sous la dictée de celui qui conduit nos vies. Nous allons être réquisitionnés pour inventer l'avenir de la religion, alors que personne d'entre nous ne sait de quoi il est fait. Il n'y a plus de centre unique en matière de religion. Même la Mecque est mise en question comme centre unique. Après tout, dans la spiritualité musulmane, le rapport de l'individu à Dieu est très important. Dans le judaïsme, l'interprétation des textes est devenue quelque chose de tellement immense qu'il n'y a plus de centre unique, il n'y a plus une interprétation. D'ailleurs, y en a-t-il jamais eu une seule légitime ? En protestantisme, je n'en parle même pas. Et de la même façon, au catholicisme, l'institution elle-même s'interroge sur sa centralité. L'initiative du pape François sur la synodalité questionne même le principe de la hiérarchie de l'Église. Ça ne veut pas dire que la hiérarchie disparaît, mais il y a un questionnement du principe même de la hiérarchie de l'Église. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'unique donneur d'ordre et de sens. Le monde s'est en quelque sorte densifié, concentré, rétréci. Et tout cela est à l'œuvre, non pas seulement en France, mais dans le monde entier. On pourrait définir aussi que la postmodernité apparaît dès que, justement, la disparition du centre unique et de l'unique donneur d'ordre nous place devant la diversité confessionnelle, devant la pluralité des religions, devant, alors le mot est lâché, le relativisme. Si tout est relatif, ben rien n'est absolu. Et si rien n'est absolu, qui peut parler de vérité? Parce que la religion a la prétention quand même à rechercher la vérité, ou à en être témoin, ou à en indiquer la trace, ou en désigner l'horizon. Mais si même cela n'est plus possible, pourquoi s'ennuyer encore avec la religion? Et dans un monde postmoderne où précisément chacun est dans une réflexion personnelle, individuelle, où chacun, alors ça c'est, j'enfonce des portes ouvertes, mais où chacun au fond fabrique sa propre spiritualité, comment dire encore que la religion c'est ce qui relie les hommes les uns aux autres? Vous savez, cette fameuse définition fondée sur l'étymologie, religare, qui ne veut plus rien dire, puisque précisément la postmodernité est le moment où il y a une déliaison des individus par rapport à l'institution, par rapport au groupe, par rapport à la communauté, où chacun finalement est dans son couloir, dans son silo, dans sa propre confrérie, pourrait-on dire, dans son propre chemin, indépendamment des autres. Nous vivons ça, nous, en protestantisme, de manière assez forte, où l'individualisme protestant a suffisamment été critiqué et valorisé par eux-mêmes, enfin, voilà, un paradoxe. Mais nous vivons ça aussi en catholicisme, où il est de plus en plus difficile de vivre des rassemblements. Et de la même façon, dans les autres religions, où l'aspect communautaire est questionné par la postmodernité. Après tout, l'important, c'est moi. C'est mon histoire à moi, c'est moi-je qui va passer avant le nous. Cette conséquence de la mondialisation, cet effet de, comment dire, oui, de rétrécissement du fait religieux à soi, est un élément de la recomposition qui se réalise qui finalement fait dire à certains que tout cela va disparaître, puisque si c'est seulement l'individu qui porte le religieux, évidemment, s'il n'y a plus de structure, s'il n'y a plus de communauté, eh bien, tout ça est voué à la disparition prochaine. C'est la sociologue Grace Davy qui disait, au fond, l'important aujourd'hui, c'est de croire et non pas d'appartenir. Vous voyez, c'est croire sans appartenir. Vous voyez l'image, vous voyez le résumé d'une sociologue hein, qui vise juste. Croire, ça n'est mis en question par personne. Chacun est libre de croire et chacun même est requis de croire. Pour lui-même. Et pas avec les autres. Et même si c'était possible, sans les autres. Le sociologue aussi, Jean-Paul Villem, s'est inscrit dans cette démarche et il a documenté, et puis Portier et plein d'autres qui ont noté l'affaissement de la pratique communautaire, la pratique religieuse, la pratique rituelle communautaire, la participation à la messe, au culte, à la synagogue, à la mosquée. Tout cela est une réalité. Et je fais un petit crochet là pour vous provoquer un tout petit peu, mais vous savez qu'on entend dire beaucoup que l'islam ou les évangéliques sont en train de croître et vont nous manger. Enfin, c'est le grand remplacement, mais version religieuse. Vous voyez si c'était vrai, les églises seraient pleines, les mosquées seraient pleines. Vous avez vu les mosquées pleines, vous? Elles débordent, c'est vrai, mais c'est parce que c'est des salles de prière qui sont trop petites. Je sais pas si le temple Saint-Martin déborde souvent. C'est Saint-Martin? Oui. Saint-Jean. Oui, je pensais à l'autre. C'est Montbéliard, oui, tu vois, je louche, pardon, hein. Pardonnez-moi les Belfortins, je suis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper de vision, il faut regarder notre société telle qu'elle se vit dans cette postmodernité et considérer qu'effectivement, cet affaissement du religieux, cette baisse de la pratique est une réalité documentée et qui n'est pas près de s'arrêter puisque nous n'avons aucun indice qui va dans l'autre sens. Aucun. Aucun. Même ceux qui annonçaient que Bolsonaro serait réélu grâce aux voix des évangéliques au Brésil se sont trompés. C'est pour vous dire la puissance des évangéliques au Brésil. Si c'est Lula qui est réélu, c'est que vraiment, ils sont nuls, ces évangéliques. Enfin, ils ont raté la marche. Bon. L'effet, donc, l'effet d'affaissement et de, qu'est-ce qu'il faudrait dire, de disparition de repères du religieux, se fait et peut se faire au profit d'une apparition donc de repères, mais que j'écris ici PAIRES, c'est-à-dire des lieux de réaffirmation convictionnelle, des lieux de réaffirmation identitaire forte, qui vont essayer de combler, au fond, ce qui, par ailleurs, disparaît. Et donc, des réinventions de micro-institutions, ou de micro-doctrines, ou de micro-réseaux, qui vont pallier l'effacement des grandes institutions et des grands courants, des religions canal historiques, si vous voulez, hein, au profit de religions terroristes, comment faut-il les appeler? Des religions qui auront la prétention de prendre le relais. Et il est vrai que la mondialisation et la sécularisation offrent des terrains de jeu, pour cela je pense aux réseaux sociaux, qui sont des lieux d'expression où se réinvente le religieux et où se réinventent des doctrines et même des institutions symboliques autour de quelques grandes figures, des leaders d'opinion, des prédicateurs, des gens qui ont leur propre église numérique ou leur propre communauté numérique qui risquent là aussi de déraper puisque précisément personne n'est là pour les contrôler. Et donc le croire sans appartenance ou le croire sans appartenir, que l'on pourrait comprendre de manière positive, a donc aussi un versant très sombre et très inquiétant. Voilà pour ce qui est de cette tentative de définition d'une postmodernité où, au fond, chacun de nous est sommé de se définir, de se positionner, puisque les institutions ne portent plus le discours, c'est donc à chacun d'être responsable. Alors les protestants devraient se trouver très à l'aise dans ce type de postmodernité, puisque il a toujours valorisé l'individu et la responsabilité personnelle. Mais dans un débat, comme je le disais, qui se polarise justement et qui n'est plus pondéré par les institutions, ce choix devient une espèce d'impératif. Peut-être avez-vous fait cette expérience dans vos réseaux et dans vos instances, peut-être même dans vos familles, où sur un sujet, plus personne ne prend le temps de la réflexion, mais attend de l'autre une prise de position de sorte qu'il sorte du bois et qu'on puisse le crucifier, ou le brûler, selon le choix, ou le noyer. C'est l'impératif hérétique, comme dit le théologien sociologue américain, c'est-à-dire l'obligation de choisir, l'obligation d'être pour ou contre. Vous avez sans doute vécu, oui, vous l'avez vécu, ce débat concernant le mariage pour tous. Débat auquel vous n'étiez pas préparé, parce que personne n'était préparé en France. Et il est arrivé à un moment donné où il a fallu sortir du bois. Certains ont été très mal à l'aise, parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas pris le temps religieux d'aller jusqu'au fond de la réflexion. Et puis à un moment donné est arrivée la représentation nationale qui a dit « voilà, maintenant c'est possible, le mariage homosexuel est possible, comment les religions se positionnent-elles devant cela ?» Vous êtes pour ou contre ? Et selon que vous êtes pour ou contre, vous êtes d'un camp ou de l'autre, mais vous ne pouvez pas être des deux à la fois. Vous vous souvenez de cette présence d'un évêque, justement, à une manifestation. Et l'évêque disant, c'est pas que je suis contre, j'accompagne mes ouailles. Vous voyez la difficulté de sortir de cet impératif du choix, de sortir de ce qu'impose la postmodernité, à savoir, finalement, le débat violent, le débat qui ne supporte pas la nuance, la réflexion, la prise de recul, et qui ne supporte pas non plus la contradiction. J'aimerais maintenant arriver à ce que je vous avais promis, à savoir des définitions de religion et de culte, et je terminerai là-dessus, pour dire au fond, il y a trois types de définitions de la religion qui peuvent être décrits dans cette postmodernité et qui nous amèneront aussi à comprendre un peu mieux ce qu'est le culte. Et là, je serai plus positif, vous allez voir, parce que je ne veux pas vous plomber la soirée hein, avec tous ces propos. Trois types de définitions de la religion qui sont des types. Donc, c'est pas des définitions closes, c'est des définitions types, très larges. Première définition, la religion présente Dieu comme origine. C'est clair, net, précis. Dieu est l'origine de tout. C'est l'origine du sens. Et là, je réponds à la question de tout à l'heure. Quel est le sens de la religion ? Eh bien, c'est Dieu. Vous savez, c'est comme... J'avais un catéchumène comme ça qui était un peu... Voilà, un peu... C'était un bon catéchumène, mais enfin, il était un peu limité. Et il savait que s'il disait Dieu, il répondait juste une fois sur deux, quoi. Donc, la religion, c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui est à l'origine du sens, de la direction, de la signification, de l'origine, de la vérité, du salut. Voilà, c'est Dieu. Dieu comme altérité, parce que c'est Dieu quand même, mais c'est une compréhension de la religion qui propose donc comme instance stable et définitive un message. Il y a un message. Dieu porte un message. Dieu fait une proposition à l'humanité. Voilà. L'origine, c'est Dieu qui fait une proposition à l'humanité. Proposition à prendre ou à laisser. Ce type de religion dans la postmodernité voit en ce moment même s'ébouler ses propres valeurs portantes. C'est Olivier Abel encore qui décrit cela, parce que précisément, comme il y a pluralité d'opinions, pluralité de doctrines, pluralité d'instances, qui est ce Dieu ? Enfin, et ce qu'il dit, est-il crédible ? Si c'est relatif, ça n'est pas la vérité. Et donc des traditionalistes ou des conservateurs essayent d'empêcher l'éboulement de ces valeurs. Mais rien ne sert d'empêcher un éboulement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un éboulement. Il faut attendre que l'éboulement soit passé, et puis ensuite on constate les dégâts, et puis on voit si on peut reconstruire quelque chose et à quelles conditions. La deuxième compréhension de la religion, c'est tout l'inverse. Mais dans une postmodernité, là aussi... très étonnante, la religion présente Dieu comme intérieur. Dieu comme présence, comme immanence, comme présence dans l'humain. Vous savez cette phrase qu'on entend souvent, hein, Dieu est en moi, enfin la petite flamme qui est en nous, enfin bon. Ou le salut bouddhiste, vous savez, ce salut que même le président de la République trouve le moyen de faire maintenant, hein, et en reconnaissant la divinité chez l'autre à qui il s'adresse. C'est ça le sens de la salutation bouddhiste. la divinité qui est présente chez l'interlocuteur. Et la religion est donc ici essentiellement non plus comme un message proposé, il n'y a pas de message là, mais comme une expérience, un vécu, une expérience de vie. La religion ici n'est pas discursive, ça n'est pas un discours, ça n'est pas un message, mais c'est une réalité qui s'expérimente. D'où d'ailleurs l'intérêt pour l'expérimentation religieuse avec toute une série d'offres du domaine religieux. Alors là, je vais faire mon protestant, hein, mais ça va du pèlerinage jusqu'à la retraite dans telle abbaye ou dans tel monastère ou dans telle lamasserie. Voilà, l'expérience comme étant le critère de la vérité religieuse. Le message de cette religion n'est donc pas autre chose que le vécu et la pratique de ce vécu. J'ai vécu quelque chose de très fort. Vous voyez la phrase, vous l'avez déjà entendue, ça. J'y suis allé, j'ai vécu quelque chose de très fort. Ne me demandez pas quoi, hein, je n'ai pas le discours, mais c'était très fort. Voilà, c'est l'immanence. Et puis troisième compréhension de la religion, c'est la religion du texte. Alors là, nous dressons l'oreille, nous musulmans, juifs, chrétiens, parce que nous sommes concernés là. Plus que les bouddhistes, parce que les Français bouddhistes ne savent pas lire les textes bouddhistes. Ou alors il faut des années et des années pour s'y mettre. La religion du texte, c'est-à-dire la religion du code, de la norme qui présente Dieu comme présent, mais présent dans l'écrit. Ou qui se laisse rencontrer à travers la lecture d'un écrit. L'écrit se trouvant ainsi qualifié de saint, au sens de mis à part. Enfin, c'est pas n'importe quel écrit, c'est un texte, alors certains disent sacré, on va pas aller jusque-là, mais enfin un texte qui est destiné particulièrement à porter ce message. Et dont la vérité ne peut être produite et reconnue que par l'effet de la répétition, de la citation et de l'interprétation. Cette religion pourrait se nommer donc, d'une certaine façon, dans toutes ses variantes, fondamentaliste. On revient au fondement qui est le texte. Et qui connaît donc de belles réussites. Cette religion connaît de belles réussites là où précisément la critique littéraire est mise de côté, là où l'historico-critique est quand même un petit peu effacée parce qu'il ne faudrait quand même pas trop remettre en question ce texte qui est le lieu où se laisse déchiffrer Dieu. Ce fondamentalisme-là guette toutes les religions dites du livre, ou toutes les religions qui se réfèrent au livre. Ce fondamentalisme a guetté le judaïsme, et le guette toujours d'ailleurs, le christianisme, bien sûr, et l'islam. Alors, en postmodernité, à quelle religion faudra-t-il se raccrocher pour en connaître un avenir. Moi, je vous laisse réfléchir à ça tranquillement. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous ne lisons pas les textes avec intelligence, critique, c'est-à-dire si nous ne savons pas lire entre les lignes de ces textes, eh bien, nous nous ferons croire que nous avons Dieu en nous, nous nous ferons croire qu'il a un message pour nous, mais nous ne comprendrons rien à ce qu'il veut nous dire. Donc, les deux premières définitions de la religion, pour moi, sont insuffisantes, très largement insuffisantes, et la troisième définition comme religion du texte requiert de chacun de nous un effort considérable d'intelligence. Et c'est ici que je peux vous dire, sans m'avancer beaucoup, que les croyants vont être de plus en plus appelés à être intelligents. Et si vous êtes là ce soir, c'est que sûrement vous l'êtes. Mais c'est pas du tout de la démagogie que je dis là, c'est vraiment ça. C'est prendre le temps de porter un regard sérieux sur ce sujet au point d'être intelligent. Et alors, je terminerai avec l'histoire du culte, alors le culte prendra sens. Je termine là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le culte? Le culte, c'est, alors là, c'est Exode 20, il faut que je retrouve mon texte, c'est un des textes les plus anciens de la Bible. C'est même, je crois, sur ce sujet, le texte le plus original et le plus beau qui ait pu être écrit. Alors, je vous le lis. Il arrive, ne vous inquiétez pas, c'est la postmodernité là aussi. Exode 20, 22. Bekol amakom asher zekir et shemi, avo elaika ou bererika. Partout, dans tout lieu où je ferai mémoire de mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. C'est-à-dire que le culte, c'est l'acte de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient et qui rappelle son nom, parce que nos mémoires oublieuses ne s'en rappelaient plus. C'est moi le Dieu d'Israël, je vous le rappelle, parce que vous l'aviez un peu oublié. Et je viens vers toi, donc je suis proche de toi, et je te bénis. Et ce faisant, le texte dit, ben, tu vas me construire donc un lieu pour que je puisse venir vers toi. Alors le mot en hébreu, je vous le passe, mais enfin, c'est ce qu'on appelle l'autel, vous savez, l'autel, non pas l'autel Windsor, mais l'autel pour faire le sacrifice. Et il précise bien, tu feras un autel de terre, c'est-à-dire quelque chose de simple, tu ne feras pas un autel de pierre avec des hautes marches. Pourquoi? Parce que, alors le texte est plein d'humour, parce que si tu montes les marches, ceux qui sont en bas verront peut-être un peu plus que ce que tu voulais montrer, parce que, voilà, vous voyez l'idée, vous voyez l'image. Hein. Et donc ne sois pas ridicule. Ne cours pas le risque d'être ridicule lorsque tu vas à l'autel. Tu restes calme, tu restes humble, et tu attends que je vienne pour te bénir. C'est ça le culte. C'est donc l'organisation d'un espace-temps pour l'hospitalité, pour l'accueil de Dieu. Et je termine là-dessus, parce que pour moi c'est décisif. Dans une société comme la nôtre, où y a-t-il un lieu d'hospitalité gratuite, où l'on peut accueillir la parole d'un autre et lui promettre d'être béni? Quelque chose de positif, donc. C'est le lieu de culte, qu'il soit synagogue, mosquée, église, temple, c'est cette gestion d'une hospitalité où la parole qui vient est une parole de paix et non pas d'hostilité. Et c'est le rôle des cultes dans une société comme les nôtres, d'être symboliquement cette instance symbolique, très simple, du lieu d'asile. Là, on reprend la longue tradition du christianisme. Ce lieu où l'on recueille une parole venue d'ailleurs, c'est la parole venue justement de ces textes anciens, et où l'on permet à chacun d'être à équidistance de cette parole, avec le sourire. Et là, je fais une petite expérience avec vous. Vous êtes prêts? Vous regardez... Alors, les couples, ça compte pas. Vous regardez votre voisine ou votre voisin de gauche. Et puis de droite. Juste, regardez, voilà. Bon, eh bien ça marche. Ça marche. Vous souriez. Juste ça. Votre visage a été reconnu et vous avez reconnu un visage. Vous ne savez pas le nom encore. Parce que peut-être après vous direz, mais à qui j'ai souri? Mince. Qui m'a souri? Donc il va falloir savoir comment elle s'appelle ou comment il s'appelle. L'hospitalité, c'est ça. C'est juste le symbole d'une humanité qui sourit et donc qui rit, parce qu'elle est bénie. Et ce rôle-là, dans la société, il n'y a que les cultes qui le font. Vous ne trouvez pas ça dans des meetings politiques, dans des associations de pêcheurs ou de joueurs de boules. Vous ne trouvez pas ça dans les concerts, même si on saute très haut et qu'on chante, on regarde toujours la scène, jamais les voisins, d'ailleurs on est dans le noir. Et donc il y a véritablement une originalité du culte qu'Exode 20 nous rappelle et qui est primordiale au sens premier de ce terme. Et puis je termine en disant que dans une société qui se dit laïque, alors qu'elle ne l'est pas, c'est la République qui est laïque, dans une société où certains voudraient effacer précisément le culte au nom d'une mauvaise lecture du premier article de la loi 1905 qui dit que la République ne reconnaît aucun culte, faisant référence en cela à la reconnaissance du concordat qu'elle efface. Le fait que la République ne reconnaisse aucun culte ne veut jamais dire et n'a jamais voulu dire que les cultes n'ont pas leur place dans la société et que la République n'en connaît aucun. Elle ne les reconnaît pas au sens juridique du terme, ni financier, bien évidemment, puisque c'était ça le concordat. Mais en revanche, elle les connaît tous. Et de ce fait, le dialogue doit avoir lieu. Et je termine là-dessus parce que pour moi, ça c'est une perche tendue pour ceux qui imagineraient que la loi de 1905 nous amènerait vers une société sans culte, comme si c'était le souhait du législateur. Et c'est tout l'inverse, au regard de ce que je vous ai dit, puisque la vocation des religions et la vocation du culte sont des vocations d'hospitalité, de bénédiction et de paix. Je vous remercie.